RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. Et comme tous les jours, vous avez la parole au 32-16. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Vous avez la parole au 32-16 en direct jusqu'à midi avec aujourd'hui la sophrologue Laura Barton-Martinez. Bonjour.
Hola todos.
Nous sommes avec Charles Consigny, l'avocat. Bonjour Charles.
Bonjour à tous.
Et puis Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, nous
bonjour.
Accompagne. Bonjour Jean-Loup. Vous savez qu'on a les places pour l'Europa Park tout au long de la semaine. Un séjour pour deux personnes, un séjour de deux jours pour quatre personnes. Mettons les choses dans l'ordre. À l'Europa Park, 10 fois meilleur parc de loisirs au monde, 100 attractions et spectacles, le parc aquatique rue Lantica aussi, le nouveau quartier thématique est dédié à Monaco. Ces places, elles sont pour vous. Vous envoyez Europa par SMS au 732-16. Un gagnant tout à l'heure avec nous en direct à 11h20. Je vous le rappellerai d'ici la fin de l'émission, bien sûr. Allez, on va commencer tout de suite par s'intéresser à ce qui est la vie quotidienne, le prix du carburant et une proposition de la CGT. Parce que le ministre de l'économie, du travail et de l'énergie rencontre aujourd'hui les partenaires sociaux et la CGT va arriver avec une proposition.
Oui, la CGT propose de bloquer le prix de l'essence à 1,70€ le litre. Alors un tel blocage est effectivement possible. C'est prévu par une loi du Code du commerce. S'il se produit une situation de crise, de circonstances exceptionnelles, une situation anormale du marché, eh bien le gouvernement peut consulter l'autorité de la concurrence et peut adopter un décret pour plafonner le prix de certains produits. Par exemple, pendant le Covid, en pleine crise sanitaire, le gouvernement avait décidé de plafonner le prix des masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique. Le plafonnement des prix de l'essence, ça s'est déjà fait en France. En 1990, c'est Pierre Bérégovoy, alors Premier ministre socialiste de la France, qui avait décidé de limiter les prix à la pompe. C'était au début de la Première guerre du Golfe. Eh oui, déjà, le Golfe nous concernait, en tout cas les conséquences économiques. Alors cette option avait été écartée par le gouvernement au moment de la guerre en Ukraine. Maud Bréjon l'écarte également, la porte-parole du gouvernement. Est-ce que ça serait finalement pas une bonne idée de plafonner pendant quelques semaines, voire un mois ou deux, le prix de l'essence.
32-16 pour le dire au GG. Charles, qu'est-ce que tu en penses?
Écoutez, moi par principe, je m'oppose à ce que propose la CGT. C'est un principe.
Une règle de vie.
Je pense que la CGT et les syndicats dans leur ensemble font beaucoup de mal à notre pays. Néanmoins, je pense que le sujet du prix de l'essence est un énorme sujet, qu'il est peut-être encore devant nous pour un petit moment, que ça pèse très lourd dans le budget de nos compatriotes. Et donc, je pense que toute option s'examine, y compris celle-là.
Sachant qu'elle coûterait cher, puisque dans ce cas-là, l'État doit compenser intégralement les pertes des distributeurs de raffineurs, si on plafonne les prix.
Je me demande si on ne devrait pas aller vers des choses plus contraignantes d'ailleurs, parce que distributeurs et raffineurs font beaucoup de profits en temps, quel que soit le temps d'ailleurs, en temps de paix comme en temps de guerre, tout leur profite finalement. Donc je pense qu'on pourrait d'ailleurs aller un cran au-dessus. Si j'étais le cornu, j'irais davantage vers la contrainte des distributeurs et des raffineurs que vers une prise en charge par le budget de l'État.
Jean-Loup?
Eh ben moi, je ne suis pas sûr qu'il faille faire quelque chose, parce que vu l'absence totale de marge de manœuvre budgétaire, voilà, avec quel argent? Donc en fait, peut-être, moi je veux bien que, parce que je comprends évidemment que les Français sont pris à la gorge, donc ok, on baisse le prix à la pompe, mais on fait des choses en compensation. Par exemple, sur l'âge de la retraite, on fait les réformes qu'on n'a pas faites ou qu'on a défaites, hein, pour complaire à quelques vagues députés socialistes. Et donc, on compense, ok, on baisse le prix à la pompe, mais en compensation ou en contrepartie, on fait ou on refait les réformes et on prend les décisions budgétaires qui s'imposent pour justement compenser.
C'est-à-dire compenser avec un gouvernement fragile et pas de majorité, c'est plus compliqué, quoi.
Ah bah oui. Mais est-ce que, excuse-moi, qui est-ce qui a dissous? Il s'appelle comment, j'ai oublié.
Emmanuel Macron, je crois.
Ah, champion, mon frère.
Qui est d'ailleurs bien silencieux.
Mais oui,
je sais pas. Bah, Emmanuel Macron,
qui n'a pas de solution,
qui parle beaucoup.
Oui,
beaucoup
qui de est sujets, très loquace.
Parfois des sujets qui ne le concernent pas directement. Là, sur le sujet parce de l'essence,
ils ont pas
dans son propre pays, ou enfin, il pourrait avoir un mot, au moins de compassion, mais enfin, en tout cas, de compréhension. Alors, je me souviens que pendant, souvenez-vous, pendant la crise des Gilets jaunes, il avait dit, le carburant, c'est pas bibi. Vous vous souvenez, hein, quand on lui reprochait, il avait dit, le carburant, c'est pas bibi.
Avec 50% de taxes, c'est un peu bibi quand même.
Oui,
quoi.
Parce que
c'est au moins bi.
De mémoire, l'État récolte près de 50 milliards de taxes chaque année sur l'essence. Donc c'est quand même un peu bibi.
Laura.
Oui, non, il faut aussi savoir de quoi on parle, dans le sens où vous avez quand même le groupe Total qui ne paye quasiment pas d'impôts en France, qui est détenu...
qui a fait une proposition qui plafonne. Total plafonne. Ça s'arrête aujourd'hui.
Ça s'est arrêté ce matin. Moi, j'ai fait mon plein ce matin. Je peux te dire que j'ai senti que Total avait arrêté de plafonner. Hein.
Oui.
J'ai payé mon litre d'essence 2,10 €. Essence. Je suis pas au gasoil. Donc j'ai bien senti que le truc s'était arrêté d'être plafonné. Donc qui ne paye quasiment pas ses impôts en France, qui est détenu à 40% par des actionnaires américains, et qui, depuis le début de du conflit dans le Golfe, a fait plus d'un milliard de bénéfices, enfin de recettes. Donc
j'espère que t'as acheté des actions.
Putain. Et,
ah bah oui.
Et là on apprend, parce qu'on on s'est quand même penché dessus, parce que quand on dit plafonner les prix, en fait on regarde qui ? On regarde Total, puisque si Total décide de plafonner, on l'a bien vu, tout le monde se range derrière. Donc en fait, on
d'ailleurs vise, ça a vidé les stations Total qui sont en rupture de carburant.
On vise Total. Eh bien Total, juste, alors il me semble que c'était un jour avant le début du conflit réel, donc Trump commençait déjà à menacer, etc. Total a fait des sur-réserves de carburant, ils ont acheté je ne sais combien de mètres cubes de pétrole, et on va seulement les avoir, ces mètres cubes, à partir du mois de mai. Donc en fait, ça fait, et je me souviens sur ce plateau où on disait non, les raffineurs ne font pas de spéculation, non, personne ne va profiter, non.
Donc
non,
un
non.
Carburant qu'il a acheté peu cher, il va le revendre
ils ont fait une bonne opération.
Ils vont se faire des millions, sauf que moi je suis
d'accord. Alors, privé, c'est son
sur ça,
sa raison d'être.
Sur ça, j'ai pas de souci. Par contre, moi, je serais peut-être pour. Je suis contre, tu vois, plafonner les prix d'une entreprise privée, parce que j'estime qu'une entreprise privée peut tout à fait jouer de ses prix comme elle a envie. En revanche, je ferais peut-être une loi qui pénalise les profiteurs de guerre. Parce que je trouve ça quand même inadmissible de se faire un business.
Sur ses profits, t'inquiète pas, ils paieront beaucoup d'impôts aussi.
Mais pas en France.
Ah oui, mais
Total fait majoritairement son activité ailleurs qu'en France.
Oui. Oui.
Même alors, les raffineries Total sont assez peu rentables en France.
Et d'ailleurs, oui,
souvent, le patron Total menace de les fermer lorsqu'il y a des grèves
Et il me semble que Total est en Pologne et que la Pologne, comme 5 autres pays de l'Union européenne, ont décidé de plafonner les prix et Total ne s'est pas retiré. Donc il faut arrêter d'avoir aussi la peur de se dire non, mais si on plafonne, Total va arrêter de nous servir. C'est pas vrai. Total préférera toujours gagner 10 centimes plutôt que 15.
Pourquoi ne pas plafonner? Taxes. Moi, j'aime bien parce que.
Non, mais tu peux pas me contredire sur ça. J'arrête pas de gueuler en disant il faut stopper les taxes. Mais t'as quand même aussi, pardon, s'il baisse les taxes, qu'est-ce que va faire Total?
Total a plus agi que le gouvernement. Puisque Total a décidé de plafonner ses prix. Alors ça s'arrête aujourd'hui, mais a décidé de plafonner ses prix.
C'est un faux cadeau.
Qu'a fait le gouvernement qu'a fait le gouvernement depuis ces semaines?
Mais c'est un faux cadeau.
Il a proposé des aides très ciblées et très insuffisantes. Parce que quand tu interroges ceux qui sont concernés, ils disent c'est pas suffisant.
C'est un faux cadeau. Ils t'ont vendu à des prix d'or des litres et des stocks qu'ils avaient déjà depuis longtemps et achetés depuis longtemps.
C'est pas Total qui fixe ses prix. Donc si tu veux, c'est pas si Total, on pourrait gueuler, crier au scandale si c'est Total qui fixait les prix du baril et du marché.
Non.
Sauf que c'est pas Total. Et Total, au contraire, cap, comme le disait Olivier, ce qui a plutôt arrangé le consommateur. Malheureusement, c'est le marché qui décide.
Moi, j'ai deux remarques. La première, j'anticipe un peu sur le sujet de tout à l'heure, mais il me semble que la solution la plus simple, ça serait d'arrêter cette guerre stupide et criminelle qui nuit à tout le monde et même y compris aux Français qui pourtant n'ont rien à voir dans cette sordide affaire.
Pas forcément baisser les prix et d'arrêter la guerre.
Pourquoi?
Dans un premier temps.
Dans un premier temps, mais à terme.
Si le détroit d'Ormuz reste bloqué, et le détroit d'Ormuz, ce sont les Iraniens qui le bloquent, ce sont pas les Américains.
Ah, mais ce sont les Iraniens parce qu'on les attaque. Oui. Parce qu'on les agresse.
Le détroit d'Ormuz ne leur appartient pas.
Ça, c'est. Oui, mais.
C'est marrant, parce que là, on ne parle pas de droit international.
Ils font ce qu'ils peuvent.
Ça concerne les Américains, mais quand ça concerne les Iraniens,
c'est pas eux qui ont commencé. Ils ont été agressés.
Non, c'est eux qui ont commencé.
Ils ont été agressés en violation du droit international.
Enfin, c'est l'Iran qui, depuis 47 ans, menace de détruire Israël par l'arme nucléaire. Enfin, c'est eux qui ont commencé.
Menace purement verbale, et donc ils ont été agressés.
Visiblement, non.
Alors, ils ont été agressés. Et deuxièmement, tu dis, justement, et tu as tout à fait raison, Total a fait plus que le gouvernement. Bah, c'est normal parce que Total est une vraie puissance internationale, ce que n'est pas le gouvernement. Comme le disait tout à l'heure Alain, il n'y a pas de majorité. Et, par exemple, la vérité, c'est que le patron de Total, monsieur Pouyanet, quand il va à l'étranger, il est reçu comme un chef d'État et il est plus considéré que Sébastien Lecornu. Voilà, c'est ça la vérité. C'est que Total, par sa par son réseau international, par sa puissance économique, par son rôle dans le secteur de l'énergie, est une vraie puissance, ce que n'est pas le gouvernement de la France.
Bah là, le gouvernement navigue à vue, puisque voilà. Brejon, qui était invité tout à l'heure d'Apolline de Malherbe, m'a dit qu'il y aurait des aides la semaine prochaine. Donc, si tu veux, elle était sur RMC et BFM TV. Donc, on voit bien qu'ils se disent, allez, on
dit
rendez-vous la semaine prochaine en espérant
pas de...
la situation se calme un peu ou peut-être, voilà.
Passe à autre chose. Maud Brejon, elle a commencé au début du conflit par nous dire, ça va très peu augmenter. Quelques centimes. Bon, ben finalement, on voit les prix à la pompe. Ensuite, elle nous a expliqué, non, on fait pas du tout de surplus fiscal, non, c'est faux, c'est une erreur, c'est complotiste. Bon, ben finalement, quand même 260 millions d'euros sur un mois de surplus fiscal. Si ça continue, ça fera plus de 500 millions sur deux mois, ça fait quand même une petite cagnotte qu'on pourrait redistribuer un demi-milliard. Donc, il n'y aura pas de pénurie. Là, ce matin, la même Maud Brejon nous dit, il y a quand même une station sur quatre qui est en rupture d'au moins un carburant.
Oui, c'est des problèmes de réapprovisionnement.
Oui, enfin, d'accord. Bon, enfin, si c'est pas une pénurie, ressemble un peu quand même. Donc, le problème, c'est qu'on a une parole gouvernementale qui est en fait face à la réalité totalement décalée.
On a Manu de Perche qui nous appelle. Bonjour Manu.
Salut, comment vous êtes? Ça va, vous allez bien?
Ça va Manu.
Bonjour Manu.
Comment ça? L'autre, elle a dit, la filière. C'est bien, vous avez fait une bonne recrue, c'est bien les gars.
Elle est chez vous.
Je suis pas content d'ailleurs, j'avais dit une fois, il n'y a pas assez d'insulaires chez vous.
Eh ben, ça y en a une. Alors Manu, comment ça se passe vous pour l'essence en Corse?
Eh ben, pour le moment, ben là, j'ai la pancarte devant moi, il est toujours... Ah non, ça a explosé, ça y est. Non, 2-0. On a la chance encore sur la Corse, c'est encore bloqué chez Total, hein, 99. Pour le sans-plomb et 2,09€ pour le diesel. Mais à mon avis, ça va pas durer. Et puis, en plus, ça explose parce que là, on a tous les pêcheurs qui ont bloqué les ports, les pêcheurs pro. Ils se sont fait rejoindre par les bateliers. Ils vont se faire rejoindre certainement par les agriculteurs. On est en train de démarrer une saison très compliquée.
Ça va toucher pour le tourisme, hein. Les bateaux, les prix du bateau qui sont déjà, franchement, ils s'amusent bien sur le prix du bateau, ça va exploser. Le tourisme, là, ça y est, commence à parler du carburant pour les avions, ça commence à devenir compliqué. Vous allez voir la Corse cet été.
Et Manu, du coup, qu'est-ce que je veux dire là, parce qu'en Corse, se déplacer sans sa voiture, c'est compliqué quand même, hein. On va le dire.
C'est simple. J'ai deux filles. Elles font leurs études sur le continent, mais quand elles viennent l'été, il faut qu'elles bossent, elles payent leurs études. On est quatre, on a quatre voitures.
Quatre voitures?
T'es obligé? T'as pas de transport en commun?
Eh oui.
Chez nous, c'est pas le bourricot qui va t'amener quelque part. Si t'as pas de voiture, tu restes à la maison, je te dis, hein, c'est clair et net. Hein. Donc après, moi, je voulais vous dire une chose, les amis. Rappelez-vous, il faut revenir dans l'historique un peu politique de notre pays ces derniers mois. Oh, le gouvernement qu'on a, on a un gouvernement d'intérim, on a des gens qui devaient sauter à sur une motion de censure. C'est-à-dire que là, les gens qui nous dirigent aujourd'hui, c'est pas les meilleurs. C'est pas les premiers de la classe qu'on nous a mis. Donc après, moi je vais les excuser parce que là, je pense qu'il y a un sérieux problème de compétence. On nous a mis des gens, on a bien vu l'escure comme il s'est fait épingler par Tanguy, sur la taxe. L'autre ne savait pas si c'était des bénévoles qui faisaient le carburant en France ou si c'était une vraie entreprise qui gagnait de l'argent. Donc ça a été, on vit des moments assez lunaires quand on regarde la classe politique de près. C'est, on est dirigé par des jeunes qui sont complètement paumés.
Ouais.
Alors après,
je crains que ce ne soit pas vraiment le sujet.
Je crains que vous ayez raison.
Reconnaissons néanmoins que cette crise, contrairement à celle des gilets jaunes qui avait été provoquée par une mesure politique, là, on subit ce qui se passe au Proche-Orient.
Ouais, Manu, regardez, rappelez-vous, ces gens-là, ils sont rentrés dans ce gouvernement pensant se dire, ah, je vais être ministre. Mais si on leur avait dit qu'ils allaient manger ce qu'ils allaient manger aujourd'hui, je pense qu'il n'y en aurait pas un qui aurait signé. Hein. Ça, à mon avis, ils ne seraient pas allés, les gars.
C'est pas faux, Manu. Bonne route, à bientôt dans les GG, allez, Manu. Merci d'avoir été dans les grandes gueules de la Corse. On va remonter vers la Haute-Garonne. C'est Michel qui est avec toi. Ah, Michel, il est taxi. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour, les GG. Bonjour, les grandes gueules et bonjour à tous.
Donc, ça douille, là. Puis en plus, vous êtes en tarif réglementé, vous, les taxis.
Alors, pour vous expliquer un peu la situation, avant les 38 jours de début de la guerre, on avait un tarif du carburant qui était à peu près 1,60€, si mes souvenirs sont bons. Mm-hmm. Là, on est passé à 2,30€, mm-hmm. soit une augmentation de, il n'y a pas 30 ou 40 centimes, on est à plus de 70 centimes d'augmentation. Mm-hmm. Moi, j'ai un gros véhicule, j'ai un gros 4x4 allemand, j'ai à peu près 70€ de plus par plein de carburant. Je fais un plein tous les deux jours.
Ah oui. Vous
voyez ? Donc nous, les taxis, que ce soit en Haute-Garonne ou dans toute la France, nous avons nous avons un tarif qui est réglementé, qui est mis à jour au 1er janvier de chaque année par la préfecture, donc par l'État. Ce tarif-là est inchangé. Depuis le 1er novembre, avec la Sécurité sociale, la CPAM, hein, et donc la CNAM à Paris, on nous a baissé nos tarifs. C'est-à-dire que nous, avant, en Haute-Garonne, on avait un tarif où on était payé par la Sécurité sociale à 1,54€ ou 1,60€, je crois, à peu près, si mes souvenirs sont bons. Et là, on nous a baissé à 1€ du kilomètre, d'accord ? Depuis le 1er novembre. Donc, en fait, tous les taxis, on travaille à perte, là, maintenant.
Donc, ça vaut le coup de se lever, d'aller bosser ou pas, Michel ?
Ben on est obligé de se lever, d'aller bosser parce qu'il y a les charges qui tombent, parce que sinon on ferme boutique. Mais je peux vous dire qu'en médical, tout ce qui est soins, ben tout ce qui est enfant, psychomotricienne, kiné, tout ce qui est soins où il y a une attente de 35-40 minutes, eh ben ces soins-là, les taxis leur refusent de plus en plus. Enfin moi, pour ma part, je ne les fais plus. Voilà.
Déjà, vous ne voulez pas acheter une voiture électrique ?
Comment ?
Vous ne voulez pas acheter une voiture électrique ? C'est peut-être le moment.
Une voiture électrique, pourquoi faire ?
Bah pour rouler.
Il y a une augmentation d'ailleurs des ventes de voitures électriques.
Pour exercer votre profession.
Michel, c'est pas question de bobo parisien ou pas, Michel.
Comme ça.
Michel, il y a plein de vos collègues, vous voyez, du côté de la Côte d'Azur.
Mais ce sont des collègues qui font que de la ville.
Non. Par exemple, sur les Alpes-Maritimes, ils font beaucoup d'arrière-pays niçois. Ils sont en électrique aussi.
Mais non, mais c'est pas vrai.
Mais si,
Quand on est à la campagne, moi j'ai 90% de mon travail, c'est à la campagne.
Mais alors, l'arrière-pays niçois, c'est pas la campagne, c'est la montagne. Ils font 80 ou 160 kilomètres. Ils sont en BYD ou en Tesla, Michel. Je vous assure, c'est des collègues vous. Ils font 400, 500 kilomètres par jour, y compris à la montagne.
C'est ce que je fais aussi, mais c'est pas pour moi, c'est pas.
Bon, vous avez pas envie, quoi.
C'est pas possible.
C'est pas que j'ai pas envie. Je fais du privé, donc quand j'ai plus de trucs, je peux pas venir vous chercher, vous attendez, je vais attendre 2 heures que je recharge mon véhicule.
Mais non, ça ne dure pas 2 heures, ça dure 25 minutes, Michel.
Mais non,
arrêtez.
C'est plus long qu'un plein de carburant.
Et puis c'est pas la crise, et puis après,
vous avez le droit de pas avoir envie.
Non, je suis pas d'accord. Et puis après, ils vont nous dire, ils vont nous augmenter le prix du kilowattheure parce qu'on sera tous à l'électrique.
Ça, il y a des chances.
Déjà, avec notre réseau électrique en France, on n'est pas capable de passer tous à l'électrique. C'est une fumisterie. Qu'il y ait des gens en centre-ville qui roulent à l'électrique parce que...
On vient de vous dire que ce n'était pas le centre-ville.
Michel,
les petits véhicules électriques.
Michel, on va regarder, justement, on a posé la question. Est-ce qu'il faut plafonner le carburant à 1,70€ ? C'est la question qui a été posée sur les réseaux sociaux. Les partenaires sociaux voient le ministre de l'économie aujourd'hui. 1,70€, d'accord avec la CGT. Oui, totalement, à plus
totalement,
de 70%.
Je crois que c'est la première fois que je vois un oui totalement d'accord avec la CGT à 73%.
Dans un instant,
pour l'encadrer, celui-là.
On va s'intéresser à une autre mesure, celle de la libération d'une partie de l'épargne salariale. Débloquer 5 000 €. L'épargne salariale, c'est 130 milliards d'euros d'encours et ça concerne 13 millions de salariés. D'accord avec ça ou pas ? 32-16, il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4. Vous prenez la parole avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, la radio et la télé pour les grandes gueules, avec aujourd'hui Charles Consigny, Laurent Vartan-Martinez et Jean-Loup Bonamy. L'épargne salariale, est-ce que aujourd'hui, dans ces temps compliqués pour le pouvoir d'achat, pour notre quotidien, est-ce qu'il faut déverrouiller l'épargne salariale ou une partie ? c'est une proposition qui consisterait à faire en sorte que quelques 4 millions de salariés puissent déverrouiller ou débloquer 5 000 euros.
Alors, c'est une proposition d'un sénateur LR, soutenu par le gouvernement et qui va être débattu au Sénat cet après-midi. L'idée, c'est de permettre aux Français de retirer directement et sans payer d'impôts jusqu'à 5 000 euros de leur épargne salariale. Ça concerne pas tout le monde, hein, ça concerne les salariés, mais c'est quand même plusieurs millions de salariés en France qui ont de l'épargne salariale bloquée. Et pour la débloquer, il faut, vous savez, répondre à des critères très précis, par exemple, acheter un bien immobilier, etc. Là, il y aurait pas de critères, mais ça sera en une seule fois et ça serait 5000 euros. On n'a pas le droit de le faire en plusieurs fois. Une mesure pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Alors les syndicats sont très sceptiques. Les syndicats disent en fait on permet simplement aux Français de récupérer leur argent. Les syndicats préféreraient qu'on travaille plutôt sur des augmentations de salaire. Est-ce que c'est quand même une bonne idée?
32-16 pour le dire au jugé, le dire au grand gueule, Laura.
Bah, c'est une bonne idée dans le sens où les gens peuvent récupérer leur argent sans payer d'impôts. Donc moi je suis toujours partisane de ça. En revanche, est-ce que ça va vraiment aider les gens? J'en suis pas sûre. Parce que pour que tu en sois à avoir 5000 euros de compte épargne salariale, ça veut dire soit que t'es dans l'entreprise depuis très très longtemps.
Soit t'es cadre.
Donc c'est-à-dire que la personne qui vient d'arriver ou qui a un salaire modeste, bah, n'aura jamais 5000 euros sur son compte épargne. Aussi bien que je me souvienne, si je suis montée un jour à 600 euros, je crois que c'était le maximum. Alors j'ai pas été très très longtemps salariée, mais je gagnais quand même bien. C'est très bien pour les gens qui vont pouvoir le retirer et sans payer d'impôts. Moi, je trouve que ça devrait être tout le temps le cas. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va résoudre le problème des gens qui arrivent? Je pense que quand on est à subir au point de plus du tout consommer, de plus du tout rouler et de sacrifier tes déplacements pour une augmentation qui va peut-être te jouer de 15-20 euros sur ton plein, je suis pas sûr que ça veut dire que tu aies 5000 euros d'épargne salariale de côté.
Jean-Loup.
Non, mais alors, à part l'exonération fiscale, donc le fait de ne pas payer d'impôts, ce qui est une bonne chose, moi je suis plutôt en fait contre cette mesure, contre ces mesures permanentes, des petits expédients, des petits moyens, des bouts de ficelle, et en fait il faut bien le dire, de la politique du chien crevé au fil de l'eau. Voilà, je pense que aussi il faut se demander à quoi va servir cet argent. Donc en fait, bon, c'est dans le but de relancer la consommation, mais pour acheter quel produit? Bah vu qu'on ne produit plus rien et vu notre déficit commercial, ça sera en fait pour acheter des produits chinois. Donc moi je pense qu'au contraire, il faut restreindre la consommation, augmenter encore notre stock d'épargne et opérer, comme le disait Arnaud Montebourg, le redressement productif, c'est-à-dire relocaliser la production agricole et industrielle en France. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra éventuellement réfléchir à la question de consommer, de taper dans l'épargne pour consommer.
Il faut plutôt changer nos habitudes.
Il faut plutôt changer de modèle parce que, ok, tu débloques de l'épargne. Donc, en fait, c'est pas du tout de la gestion de bon père de famille. Tu crames ton épargne, tu consommes, après, t'en as plus. Bon, ok, et t'as acheté quoi avec? T'as acheté des produits chinois. Donc, tu as relancé l'économie chinoise et certainement pas l'économie française. Donc, avant de se poser la question de la consommation,
où tu t'es donné de l'air aussi financièrement par rapport aux charges qui ont augmenté, aux factures énergétiques.
Dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux redonner du pouvoir d'achat en libérant le travail, en baissant les charges et en augmentant les salaires nets, et donc en redonnant des moyens et des marges de manœuvre aux Français. Mais c'est quand même pas
à long terme plutôt.
Voilà, c'est quand même pas très sage de leur dire consommez, cramez votre épargne et relancer l'économie chinoise comme ça.
Charles. Non, mais tous ces mécanismes, toutes ces usines à gaz, elles ont été créées pour quoi? Pour tordre le bras, je vais vous surprendre une seconde, des employeurs de mauvaise volonté qui décidément sont récalcitrants à payer correctement leurs salariés, et donc on a créé des systèmes divers et variés pour inciter davantage et même contraindre les entreprises à ce qu'on appelle le partage de la valeur, ce qu'on appelle maintenant comme ça, parce qu'on n'appelle plus les choses comme elles sont, on dit le pouvoir d'achat, le partage de la valeur, etc. Moi, je pense qu'il faut donner aux gens des vrais salaires sonnants, trébuchants et suffisants pour vivre dans un pays comme la France et pour affronter parfois des petites inconnues. Donc voilà, une augmentation du prix de l'essence, une augmentation du prix de l'électricité en hiver, et même pour se faire plaisir aussi, parce que le salaire, ça doit pas juste être un moyen de survivre. Donc moi, je pense que on a une réflexion musclée à conduire sur ce sujet des salaires en France. C'est-à-dire que c'est un sujet qu'on aborde toujours avec une espèce de pudeur. Par exemple, cette histoire des tickets resto, j'imagine que vous en avez parlé hier.
Oui.
Bon, mais je vais pas refaire le débat, mais je trouve ça absolument affreux, ce système.
Ça va un peu dans le même sens.
De tickets de rationnement, mais c'est complètement con. Ce système de prêt pour acheter de l'essence, c'est dingue. C'est,
ah oui, le prêt flash.
C'est un truc de dingue.
Le prêt flash carburant.
C'est-à-dire que l'État,
50 000 euros.
Vous allez emprunter pour payer des taxes maintenant. C'est incroyable. Oui. C'est un système incroyable. L'État va vous prêter de l'argent pour que vous puissiez lui payer des taxes.
Mais c'est vrai que sur les taxes.
C'est un truc de fou pour payer la taxe qui elle-même taxe une taxe. Voilà. Ça, c'est le pays dans lequel on est. Donc, quand je mets les entreprises dedans, c'est que je pense qu'il y a de la mauvaise volonté en France aussi. Il n'y a pas que les charges sur les salaires qui font que les salariés sont mal payés. Je pense qu'il y a une certaine mauvaise volonté des employeurs qui compriment toujours plus les salaires. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet qui devrait être vraiment sur la table, qui devrait être un sujet d'action quotidienne de nos parlementaires, du gouvernement, etc. Je ne sais pas très bien quelle forme ça peut prendre, mais il faut s'emparer du sujet. Tout ça, c'est des rustines. Voilà. Et d'ailleurs, on voit bien des blocages exceptionnels de 5 000 euros. Bon, bah,
oui, mais
c'est
une 5 000 euros que beaucoup de salariés n'ont pas. C'est aussi quelque chose de notre pays. C'est-à-dire qu'on est quand même les champions du monde de l'épargne. C'est-à-dire qu'en Europe, on fait partie de ceux qui épargnent le plus. C'est-à-dire
que si
on prend l'épargne des Français, mais c'est une somme considérable. Alors pourquoi les Français épargnent-ils autant? Alors c'est peut-être notre côté fourmi. Voilà.
C'est une excellente chose.
On aime bien garder l'argent. Oui, mais c'est une excellente chose, mais c'est de l'argent qui ne tourne pas, qui va.
Mais
qui ne
circule pas. Je viens de t'expliquer que si tu le fais tourner, ça relance l'économie chinoise.
Néanmoins, on peut préférer l'esprit anglo-saxon où on épargne moins.
À de la dette privée.
De la dette privée en permanence. On consomme, on emprunte, on vit à crédit, plutôt que cet esprit de
je garde tout sur mes Olivier comptes, Truchot,
mais je n'en fais rien.
Olivier Truchot n'a pas compris que les États-Unis avaient quelque chose qui s'appelle le dollar et qui permet aux États-Unis.
En Grande-Bretagne, il y a cet état d'esprit aussi.
Oui, bah, les Royaumes-Unis.
Aux Pays-Bas, il y a cet état d'esprit.
Le Royaume-Uni, c'est une place financière mondiale avec qui capte tous les capitaux de la planète. Ce qui, je crois, n'est pas le cas de la France.
Je parlais vraiment d'un état d'esprit.
Ouais,
mais alors, cet état d'esprit, c'est quoi? Cet état d'esprit, c'est faire de la dette, donc ajouter la dette privée à la dette publique.
Dans une entreprise, une dette, c'est de la richesse, Jean-Loup. Moi, je suis désolé, j'ai pas 1000 euros de côté. Par contre, j'ai un patrimoine actuellement immobilier qui m'a généré beaucoup plus de revenus qu'un taux à 3% sur un livret A. Donc, tu peux quand même aussi dire qu'à un moment donné, il y a des systèmes qui fonctionnent. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que je ne suis plus d'accord pour enrichir d'autres pays que le mien. Je te rejoins. Mais je ne suis pas sûre que, malheureusement, épargner constamment et uniquement ne soit la seule
solution. Mourir cramé, tu feras quoi?
Mourir avec
son épargne, mon argent, il fait des petits. J'ai acheté une maison. Une maison 318 qui en coûte 450 maintenant. J'ai acheté un appartement qui m'a coûté 180 000 euros, voilà, qui en vaut 700 000 maintenant. J'ai acheté un bloc qui coûtait 15 000 euros. Il coûte 40 000 euros.
Olivier Truchot n'a rien compris à la crise des subprimes.
Mais c'est pas la crise des subprimes. Je le vends. Même s'il y a une baisse du prix du logement, même si je le vends. Mais
Laura, quand même, est la tête d'un patrimoine immobilier.
Alors je suis désolé, mais qui ne fait, et c'est très bien, je suis très content pour toi, ça ne contribue absolument pas à la santé de l'économie française.
Bah si, parce que je suis pas un poids pour l'économie française,
parce que je réinvestis
complètement, parce que j'ai des appartements qui sont loués par des locataires, donc comme du logement.
En fait, si j'étais un escroc,
il y a des travaux aussi.
Si j'étais un escroc,
partons de cette hypothèse,
je m'adresserais directement à Olivier Truchot pour lui fourguer tous mes trucs, parce que t'es vraiment le roi des gogos. Avec tout ton discours, on dirait Homais dans Madame Bovary.
Et toi,
Bovary,
comment tu contribues à l'économie française, Jean-Loup?
Tout ton discours préconçu.
Non, mais je comprends bien.
Tu répètes les lieux communs sans même rien connaître.
Tu es l'archétype du fonctionnaire.
Fonctionnaire. J'appelle zéro risque dans ma vie.
Je serai payé la même façon pendant 25 ans.
Action Eurotunnel à Olivier Truchot.
Mais non, mais Jean-Loup, explique-moi.
C'est Jean-Loup
Bonamy. Mais Jean-Loup, explique-moi. Explique-moi comment tu fais toi tourner l'économie française.
Moi je n'épargne déjà.
Ah ben non.
Non, mais ça c'était pas
voilà,
ça,
c'est
ça
avec nous. Bonjour Wallace.
Oui, bonjour.
Vous proposez fonctionnaire territorial. Est-ce que vous pourriez libérer de l'épargne? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mesure?
Ah ben moi je suis tout à fait d'accord avec cette mesure. D'ailleurs, j'en avais parlé il y a très longtemps dans un en intervention que j'avais fait aussi chez Estelle à l'époque, en disant que ce serait une chose excellente de pouvoir débloquer une partie donc des épargnes salariales et professionnelles.
D'ailleurs, ça va vous servir à quoi pour vous personnellement?
Bah déjà à rembourser un crédit que j'ai. Voilà, parce que le crédit que j'ai, bah c'est 75% de ce que je vais débloquer. D'accord. Donc ça serait bien. Moi j'ai un PERP qui a 19 000 euros et j'aimerais bien pouvoir le débloquer. Malheureusement, il y a, comme d'habitude, il y a que 4 possibilités, soit être mort, soit être à la retraite, soit être en surendettement ou alors je sais plus quoi.
Ça a explosé dans les impôts. Quoi.
Ou divorcer.
Ouais. Ou divorcer, voilà.
Sans donc, combien vous avez en épargne aujourd'hui avec votre travail
ou 19 000.
Ah bah moi rien total.
Ouais, moi rien du tout parce que là j'ai changé, maintenant je suis fonctionnaire. D'accord. Donc j'ai aucune épargne salariale par le fonctionnariat, mais c'était sur une ancienne en fait, une ancienne société.
Donc en fait vous avez 19 000 et vous aimeriez les débloquer, enfin une partie en tout cas.
Ah bah oui, si c'était possible, ouais, je le ferais avec grand plaisir. Ouais. Ouais.
Parce que sinon vous le débloquez quand alors faut attendre.
Ah bah je vous dis c'est à la retraite ou alors il faudrait que je sois ou en surendettement ou mort.
Ou alors avoir 3 enfants, Wallace.
Voilà, c'est ça.
Un petit conseil, ne demandez pas des conseils de gestion à Olivier Truchot, hein, parce que vous allez vous retrouver en surendettement aux États-Unis.
Mais non, mais
avec du crédit peut-être avec revolving.
En tout cas, ce serait pas pour acheter ou du chinois ou des choses comme ça.
Ah, bravo.
On peut faire autre chose que
ça. C'est très bien.
Bien sûr. Vous pouvez louer des appartements à Laura Vartan-Martinez, par exemple.
Oui,
ces appartements appartiennent à la banque, de toute façon, parce que c'est elle qui a les clés.
Ils m'appartiennent un peu plus chaque mois.
Mais ce qui est vrai, c'est une femme qui.
Allez-y, Wallace, pardon.
Ouais, ou enfin peut-être visiter le Québec, ce serait mon rêve.
Ah, j'ai pas d'appart au Québec, je suis désolé.
Wallace, merci d'avoir été avec nous.
À Jean-Loup, moi je trouve quand même effectivement que les Français manquent profondément de culture d'investissement. Ils investissent très peu dans les PME françaises alors que.
Je suis d'accord.
Ils pourraient gagner beaucoup d'argent.
6 000 milliards, l'encours.
Ils investissent très peu sur les marchés, ils investissent très peu en bourse. Tous investissements qui sont susceptibles de les enrichir, beaucoup plus que les livrets, ceci, cela, et même que l'immobilier, dont je ne suis pas sûr que ce soit un truc si fantastique. Alors, je suis content pour toi, Laura, que tu sois devenu multimillionnaire.
Mais je
suis pas sûr de ça. Et l'épargne en tant que telle, bah oui, désolé, c'est quand même un truc complètement con.
Alors,
mais je suis d'accord avec ce que vient
après,
de dire.
Après, les gens se plaignent de pas avoir d'argent, mais si tu n'investis pas un centime
je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, hein. Moi, je suis contre le fait qu'on s'en serve pour la consommer et la cramer.
Alors, est-ce que vous êtes avec ça? Vous contre le déblocage des 5 000 euros d'épargne salariale? Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes contre?
Ah bah voilà.
C'est pas la bonne.
Allez, bam,
c'est
ils bien, ont bien la France de Jean-Loup Bonamy.
Non, mais c'est
dans un instant, là, on s'en fout pas. Il est 10h20.
Vendez vos actions au tunnel à Olivier Truchot.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
J'ai les grandes gueules sur RMC et RMC Story, la radio et la télé, les grandes gueules qui vous offrent le séjour à l'Europa Park. 2 jours pour 4 personnes. L'Europa Park est le 10 fois meilleur parc d'attractions du monde. Vous avez les 100 attractions et spectacles. Vous avez la nouveauté, c'est le quartier qui est consacré à la principauté de Monaco. Vous avez l'univers aquatique, c'est rue Lantica. Pour gagner, vous envoyez Europa par SMS au 732-16. Europa par SMS au 732-16. Le séjour, il est pour vous. 2 jours pour 4 personnes. Il est 10h moins le quart, reste avec nous sur RMC et RMC Story. C'est l'heure du on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Saïs.
Elle est belle.
Bonjour les GG. Bonjour à tous. Des tirs de mortier qui perturbent l'atterrissage d'un avion, les GG. Cela s'est passé dimanche à l'aéroport d'Orly. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Laura?
Ben non.
Charles.
On s'en fout pas.
Jean-Loup.
Je ne m'en fous pas.
L'appareil EasyJet arrivant de Venise a dû remettre les gaz à cause de mortiers d'artifice quasiment au pied de la piste. L'origine des tirs serait liée à un convoi de mariage tout près de l'aéroport, selon Le Parisien. Cortège constitué d'une quinzaine de véhicules, dont des quads. La piste a quand même été fermée durant 1h30. Bon, il y en a d'autres, hein, 2 pistes, mais ça a perturbé quand même un petit peu le trafic aérien. Laura, pourquoi tu t'en fous pas?
Bah alors déjà, je commence à en avoir marre de ces célébrations de mariage qui foutent une panique générale dans les centres-villes, en maintenant carrément sur les pistes d'aéroport. Mais pardon, faut être quand même assez décérébré pour tirer des mortiers à côté d'un avion. Mais imagine, le mec, il est là, ouais, un peu bourré et tout. Il balance son truc et ça atterrit dans le réacteur, dans l'avion. Il a conscience du nombre de morts qu'il peut engendrer, ce mec-là. Mais ils sont débiles. Je suis toujours effarée de la bêtise humaine et je trouve que ça va de pire en pire ou de mieux en mieux. Je sais pas comment le qualifier. Moi, je suis ébobie devant tant de conneries.
Charles.
Écoutez, c'est une nouvelle manifestation de la racaillisation de notre pays. Qu'est-ce que c'est ces mariages? C'est des bandes de Kaira qui exhibent des bagnoles acquises grâce au trafic de drogue, qui ne respectent pas la voie publique et qui se croient tout permis. Moi, je pense qu'il faut des peines de prison fermes, parce que quand vous perturbez le fonctionnement d'un aéroport, pour moi, vous n'êtes pas loin du terrorisme. Donc, je considère que toute personne identifiée comme ayant participé à ces faits doit passer par la case prison avant qu'on examine cette situation.
Charlot.
Eh ben, je vois que l'espace aérien français est devenu plus dangereux que l'espace aérien iranien.
Allez.
Donc, en effet, je félicite la racaillisation, comme le dit Charles, de notre pays pour cet exploit. Voilà, c'est assez admirable. Et je pense que plus sérieusement, le gouvernement devrait sérieusement songer à rétablir l'ordre avant que les choses ne dérapent et que les gens décident de le rétablir par eux-mêmes, ce qui pourrait en fait nous amener dans des choses assez violente et assez sordide. Donc, pour éviter ça, il vaudrait mieux que le gouvernement fasse son métier et rétablisse l'ordre, ce qui est en fait sa raison d'être.
Les GG, le retour de Céline Dion à Paris. Le tirage au sort des préventes a eu lieu hier et forcément, des heureux élus, mais aussi des millions de déçus, puisque en termes de probabilité, les fans qui se sont inscrits à cette série de concerts n'avaient que 5% des chances d'être tirés au sort. Laura, fais-tu partie des heureux élus?
Non.
Aïe.
Ce jour extrêmement triste, je ne serai pas partie des heureux élus. En revanche, il me reste une petite chance. Ouais. Parce que j'avais vu que Visa, si tu avais une Visa Premium, tu pouvais t'inscrire sur Visa
Premier.
Et ouais, Visa Premier. Et tu pouvais t'inscrire et tout machin. J'en suis allée, j'ai changé de carte bleue.
Ah bon? Mais elle coûte cher,
spécialement
hein,
pour ça. Ah bah comme quoi, c'est une bonne opération pour Visa.
Ah bah tu m'étonnes. Ouais.
T'as changé, voilà.
J'ai changé. J'ai pris ma carte bleue pro, parce qu'autant dire que sur le compte perso, il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai pris ma carte bleue pro, je suis passée en Visa Premier sur mon compte pro pour pouvoir m'inscrire au tirage au sort.
Ah, sur le compte perso, il y a surtout de la dette, hein, d'après ce qu'on a compris.
Oui, mais qui génère de l'argent, mon petit Jean-Loup, je te le répète, dans une entreprise, la dette, c'est de la richesse.
Donc t'as pas encore perdu tout espoir.
Donc non.
Bon, il y a deux autres préventes prévues, celle de Visa donc demain et la Défense Arena jeudi avant l'ouverture des ventes à tous vendredi. On s'en fout pas, Charles?
On ne s'en fout pas.
Et Jean-Loup
B-A-L-E-K, Balek.
Ok.
5 lettres.
Charles, et tu connais les choses positives de la vie, Jean-Loup?
J'aime beaucoup Céline Dion. Elle a fait un truc remarquable il y a quelques jours, c'est qu'elle a convié absolument tous les VIP de ce pays. Donc si vous n'étiez pas invité, tant pis pour vous. Bon, je n'étais pas invité non plus. Elle a invité énormément de monde, des gens de la musique, de la télé, de la presse, etc., des hommes politiques, à se réunir en bas de la Tour Eiffel. Et elle ne s'est même pas pointée, elle a juste diffusé une vidéo au cours de laquelle elle annonçait qu'elle allait faire des concerts. Je sais pas si, je pense que même Macron à côté, est quelqu'un qui n'a pas besoin d'attention, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là d'auto-starisation, je trouve que c'est assez remarquable. Je pense que c'est une des plus grandes stars du monde. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas gagné le concert, mais je trouve que Céline Dion est vraiment une artiste remarquable.
Tu étais inscrit ou pas? Est-ce que tu essaieras de faire des pieds et des mains pour y aller?
Je déteste les concerts.
Ah bon, d'accord.
Non.
Alors, est-ce que je peux repasser un petit message?
Non.
Alors, je passe un message
à toutes les
directions de BFM et RMC. Anne-Laure et moi, nous sommes extrêmement convaincus que nous ferions de reporters extraordinaires pour ce concert, si vous voulez nous tenir et nous confier cette mission.
Vous savez que ça devrait rapporter jusqu'à 300 millions d'euros de recettes, pour la région Île-de-France.
Parce qu'il y a une semaine, on disait 1 milliard, maintenant 300 millions.
Là, on parle en net. C'est même 1 milliard, il est en brut. Là, on est en net.
Je veux dire, ces chiffres-là qu'on nous balance, au doigt mouillé, on n'en sait rien.
C'est des estimations.
Non, mais sincèrement, je dis que nous, journalistes, on est bêtes parce qu'on le reprend en disant « Oui, c'est ça, 1 milliard, on n'en sait rien, en fait. On ne sait pas d'où viennent ces chiffres. »
C'était comme ça. Les GG, la mission Artemis Le record de distance dans l'espace battu, les quatre astronautes de la NASA ont fait le tour de la Lune. Cette nuit, s'éloignant à 405 000 kilomètres, jamais l'homme ne sera allé si loin dans l'espace sous les yeux du monde entier sur Internet. Les astronautes ont découvert la face cachée de la Lune qui n'est jamais visible depuis la Terre. On s'en fout pas, ma chère Laura?
Ben non, on s'en fout pas.
Charles?
On s'en fout pas.
Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Jean-Loup?
Eh ben, on s'en fout pas parce que justement, on peut quand même saluer le bel exploit de l'humanité. Voilà, moi, je suis content que l'être humain batte des records et que sa soif d'aventure et d'exploration ne soit pas totalement tarie. Donc, dans notre époque de dépression généralisée, je suis toujours content qu'il y ait des exploits.
Bravo les Américains alors.
Bah oui, bravo les Américains. Espérons que les Français.
Mais tu m'as dit que tu croyais pas une seconde qu'on ait marché sur la Lune.
Pas du tout. Je n'ai jamais dit ça.
Tu m'as dit ça au maquillage tout à l'heure.
Tout à fait.
Mais la Terre est plate.
Attends, la Terre est plate.
Au maquillage tout à l'heure, Jean-Loup me dit c'est une connerie tournée par Stanley Kubrick pour impressionner les Russes pendant la guerre froide.
Et ben exactement. Et la Terre est plate et si on va trop loin, on tombe.
Et il m'a dit, regarde, on tourne autour là, on ne se pose pas dessus.
C'est sûr.
Alors
c'est
qu'on a fait tellement de progrès techniques.
Mais tu sais que si la Terre était vraiment ronde, les Australiens auraient la tête
dit,
en bas.
Assume ce que tu penses.
J'assume. Voilà.
Charles, pourquoi tu
Alors que Laura, qui est sophrologue, elle pourra t'expliquer comment
mais
on va
faire
sur
de la
Lune.
Respiration lunaire. Voilà.
Non, moi, j'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Jean-Loup. Je trouve ça.
Bah oui, il est d'accord. La Terre est plate. Et Stanley Kubrick.
Ce qui est dommage, c'est qu'on soit largué, quoi, en fait.
Ah bah oui.
C'est-à-dire qu'on est spectateur, on est assis, les Français regardent la télé. Et on applaudit
station spatiale quand même.
Je pense que les Français,
oui,
il y a une Française en ce moment même qui est dans l'espace.
Les Français aimeraient bien envoyer Emmanuel Macron sur la face cachée de la Lune, je pense.
Qu'il ne revienne pas. Qu'il établisse une base,
une colonie.
Mais pardon, on a droit quand même de dire que
oui.
Certes, c'est formidable, mais bon. En fait, on avait déjà rêvé de la Lune, puisqu'on l'a déjà atteint, on a déjà marché. Moi, je trouve que c'est un peu un remake, en fait. On a l'impression de vivre quelque chose.
Bah, c'est très américain.
Alors, ça peut être des questions de génération, mais il y a beaucoup de gens qui ont vécu en direct les premiers pas de l'homme sur la Lune, la mission Apollo.
Mais ça n'a pas
existé. Donc là, finalement,
je crois,
on revient un truc un peu en moins bien, puisqu'ils ne vont pas sur la Lune.
Mais je crois d'ailleurs
que c'est Mars qui nous fera rêver.
Les premiers pas de l'homme sur la Lune ont été commentés par Olivier Truchot sur l'ORTF.
J'aurais aimé.
Laura?
Il avait une voix différente.
En fait, je suis contente parce
les trois Américains viennent de se poser.
On va dire autant sur le plateau, j'étais pas au courant.
Ouais.
Non, ce que je trouve génial, c'est que là, en ce moment, tout ce qui est attrait au domaine scientifique, c'est pour moi des choses qui sont assez sombres, qui font pas spécialement rêver. Tu laisses mon cahier.
Je viens de tomber sur le journal intime de Laura.
Et là, on a enfin Olivier, un truc scientifique qui fait rêver les gamins, etc. Et moi, ma fille, elle est à fond dedans. Là, les cloches de Pâques, ça n'a été que des livres sur l'espace, que des livres sur les roches lunaires, etc. Et elle est déchaînée. Tu rends mon cahier.
Il y a les recettes de tous ces biens immobiliers.
Prochaine alunissage, les GG en 2028, quand même. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les sociétés technologiques, ça fait bosser, quoi. C'est ça. Et c'est ça qui tire, qui aide à la recherche.
Et les rivalités entre
progrès.
États. Chine et États-Unis.
Parce que les Chinois ont l'intention de se
contre les Russes, maintenant c'est contre les Chinois.
Les Chinois ont l'intention de se poser sur la Lune en 2030. Et en fait, maintenant, la course, c'est quel est le premier qui va installer une base sur la Lune et une base pérenne pour
les
pouvoir.
Ah bah oui,
on sur la lune.
Une déloque.
Allez, dans un instant avec les grandes gueules, Donald Trump, ses dernières sorties sur l'Iran, il veut taper plus fort, peut-être vitrifier en 24 heures. Est-ce que Donald Trump doit taper plus fort, oui ou non? 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules. Restez avec nous sur RMC, la radio RMC Story. La télé, il est 10h05.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.